Vous écoutez
RMC.
Alors cette folie autour de Wembanyama, est-ce que c'est durable ou passager? Durable, passager. Denis Charvet.
Passager.
Simon Dutin.
Durable.
David Douillet.
Durable.
Sarah Pitkowski.
Parti pour durer, oui.
Parti pour durer, ok, ouais. Je vais aller voir notre copain, notre compagnon passager. Non,
mais, oui, mais passager, mais évidemment que ça peut être durable. Mais moi, je crois que le basket, c'est la NBA. Et que la NBA, c'est un problème d'exposition. S'il ne revient plus chaque année, ce qu'il a dit, le phénomène, c'est qu'il faut le voir. Il faut le voir, il faut le toucher presque, tu vois, et l'avoir au bout des doigts. On parle de l'équipe de France, mais l'équipe de France, je ne suis pas sûr qu'il soit là tout le temps non plus. On verra à l'avenir.
Septembre,
mais je veux dire, il faut que ça soit récurrent, quoi, voilà. Et on sait très bien que cette folie, elle est là, elle est passagère aujourd'hui parce qu'il est, il est à Paris et qu'on veut voir le phénomène, mais que ça, je sais pas, j'ai un doute sur le fait qu'après cette folie se maintienne à ce niveau-là, parce qu'encore une fois, on parle de folie par rapport à un phénomène qui est presque une bête de foire.
Ok, pour toi, ça tient si la NBA revient tous les ans à Paris. On sait à quel point c'est fragile et c'est pas sûr. C'est aussi pour ça qu'il a fait.
Et puis une dernière chose, j'ai été surpris de l'audience parce qu'on dit qu'elle est bonne sur Canal Plus en clair, c'est 800 000 à peu près.
Enfin, c'est jamais un match de NBA.
Oui, mais jamais. Oui, mais c'est vraiment
plus l'audience de Bein Sport.
Oui, 200 000. Oui, mais bon,
c'est pas loin du million.
Donc jamais un match de NBA n'avait été
aussi. Je pensais que ça serait à 2 millions. Je me suis mis à rêver, mais bon.
Ok, Simon Dutin.
Ah non seulement c'est durable, je pense que c'est même parti pour être éternel dans l'histoire du sport français, mais pas seulement, je dirais même que c'est parti pour être durable aux États-Unis. Même chez eux.
Mais là, on parle de la France. Évidemment, si tu joues aux États-Unis, je vais te dire oui, moi.
Excuse-moi.
Ça va déteindre forcément sur la France.
Il a joué combien de matchs de NBA en France dans l'histoire des Spurs? Bon.
Et tu fais un match de pré-saison en 2016.
Mais attention, c'est pas la même chose. Tony Parker, c'est jamais été une folie.
On sait pourquoi. Tony Parker, c'est pas une légende du sport français.
Mais les gens, tu parles de la folie, je te parle du phénomène. C'est pas la même chose.
Tony Parker, il peut pas se balader tout seul dans la rue, dans les rues de Paris, sans attirer une nuée de gens. Non seulement ça va durer en France, et parce que vous avez souligné, c'est important quand même de montrer l'attachement au maillot de l'équipe nationale. Et j'ai l'impression, je parle sous le contrôle d'Arnaud, qu'il a déjà eu l'occasion de manifester son attachement à la France et au maillot de l'équipe de France. Ça va durer aux États-Unis parce que il a confirmé en fait les attentes. Il faut rappeler, quand il y a des mecs, des espoirs qui arrivent dans les ligues pro américaines, quelle que soit leur nationalité, ils sont attendus depuis longtemps par les experts. Et puis il y a ceux qui confirment et il y a ceux qui ne confirment pas. Lui, non seulement il a confirmé, mais il dépasse même les espérances. C'est-à-dire que il est d'ores et déjà un des joueurs que les médias aiment le plus, dont on a le plus de nouvelles. Mais non, mais c'est un baromètre important, le nombre de publications qu'il y a sur les comptes, les réseaux sociaux.
Troisième joueur de le plus regardé.
Non, mais tout le monde le sait, ça.
Tout le monde n'a pas ces chiffres.
Cinquième vendeur de maillots.
Alors, et après 100 matchs, ils adorent les stats, les Américains. Après 100 matchs, il a mis plus de points que des mecs comme Allen Iverson, LeBron James, Tim Duncan, Kevin Durant, Dwayne Wade. Si ça vous suffit pas, il a mis plus de paniers à 3 points que Klay Thompson, Stephen Curry, Kyrie Irving, Kevin Durant. Il a fait plus de contres que Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan. Tous ces mecs sont des légendes aux États-Unis, mais pas seulement dans le monde du sport, dans le monde des gens qui ont regardé un petit peu de basket.
Et on parle
donc
de
non seulement ça va durer en France, mais ça va durer dans le monde entier et pour des décennies.
Ok, et pour des décennies, c'est ce qu'il nous dit, oui. David Douillet.
Ouais, moi j'embraye derrière Simon parce que je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut pas oublier que les jeunes générations suivent la porte qui a été ouverte par Tony. Nous on a vieilli avec Tony, les jeunes vont vieillir avec Wemby, et donc cette porte elle est ouverte, cette porte de je regarde la NBA fait partie intégrante du basket français, je suis désolé,
pas du tout.
On a des joueurs français qui partent là-bas régulièrement, les Gobert, les Diou, les Fournier, etc. voilà, donc la NBA elle est connectée maintenant à la France, très clairement, et donc le parcours de Wemby aux États-Unis sera encore plus,
mais pas du grand public, la NBA, mais non, pas du tout.
Du grand public, mais bien sûr, du grand public et sera encore plus suivi que à l'époque de Tony, parce que Tony il a ouvert cette porte, il a fallu amorcer cette pompe, elle est complètement amorcée, totalement amorcée par ce que vient de dire Simon, parce que Wemby il est en train de se désigner de par ses qualités par être un des plus grands joueurs du troisième millénaire. C'est
pour
ça la vérité.
Pour que Tony Parker soit reconnu et il entre dans les foyers, il a fallu des titres. Et il a fallu aussi Eva Longoria. Enfin, je veux dire, ça a participé aussi à sa notoriété. Pour l'instant, Wemby, il n'a pas les titres.
Non, et je pense.
Et ni Eva.
Non plus. Mais je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça, Simon le disait, par rapport aux stats. Mais alors après, moi, je voulais vous amener sur un autre terrain. En tout cas, s'il devient incontournable et une méga star aux États-Unis, je ne vois pas comment ça ne peut pas avoir une incidence sur les fans de NBA, forcément, mais les fans de sport français, même le public français. Moi, je voulais amener un autre argument, c'est celui du All-Star Game qui réunit donc...
Dans un mois.
Les stars, on est bien d'accord. C'est le seul événement dans un sport où tu réunis les stars et elles sont choisies.
Les fans qui votent.
Ils seront remplaçants.
Il y a les médias qui votent, il y a les coachs et les fans qui votent. Donc en fait, c'est un trio. C'est finalement le seul événement où on choisit arbitrairement par un vote la personne qui va jouer dans cet événement-là.
Il est remplaçant.
Attends, il va être remplaçant. Mais aujourd'hui, entre l'année dernière et cette année, il a multiplié par 3 ses votes. C'est-à-dire qu'il est aux portes.
Il toque à la porte.
Mais ça, on le sait, il a fait une grande saison.
Non, mais on le sait. Mais ça n'était pas garanti. Il est aux portes de ce All-Star Game. Il va être remplaçant, ok. Mais il est beaucoup plus proche que les 3 autres Français de participer en tant que titulaire au All-Star Game. Et aujourd'hui, à partir du moment où il mettra les pieds au All-Star Game... titulaire,
mais il sera,
ça dépassera, ce sera
le débat, il n'est pas là, le débat, bien sûr, que ça va être un phénomène, bien sûr,
mais
que...
Mais donc,
mais
ça, à partir du moment où il sera reconnu dans le must, dans les étoiles du NBA, donc le basket de référence mondiale...
Il faut qu'il gagne des titres, après.
Mais aujourd'hui, il n'est pas dans une équipe pour gagner des titres, et pourtant, il a des stats...
Mais il faudra qu'il gagne des titres, c'est ce que je te dis.
Mais bien sûr, mais il n'a pas une équipe pour gagner des titres, il est quand même
du 27-28 ans, donc tu vois aussi, voilà.
Donc, il... Et donc aujourd'hui,
il faut attendre qu'il gagne.
Pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, que ce soit les stats qui le rapprochent des meilleurs joueurs, le fait qu'il soit All-Star sur le banc pour l'instant, mais quasiment sûr par ses votes l'année prochaine, pour moi, effectivement, c'est en train de monter et ça ne s'arrêtera pas.
Et ça ne s'arrêtera pas. On reparlera demain de Victor Wembanyama. On va tenter de le comparer à nos autres grands sportifs français actuels. Évidemment, Kylian Mbappé, évidemment, Léon Marchand. Et on verra s'il est de cette caste-là aujourd'hui, malgré évidemment qu'il soit exporté aux États-Unis.
Et Antoine Dupont.
Victor Wembanyama et Antoine Dupont, bien sûr.
Oui, il oublie pas.
C'est à 18h le match ce soir face aux Pacers qui sera évidemment pour nous.
Absolument.
Avec Stephen Brun. Ce sera donc à 18h à suivre sur RMC. Un point à l'Open d'Australie avec toi, Eric Salio, dans cette magnifique finale d'âme.
Madison Keys, j'en rigole parce que c'est insensé ce qu'elle fait. On a l'impression qu'elle frappe les yeux fermés, ça rentre. Elle est à 2 points de la victoire. Je dis bien 2 points de la victoire. 6-5 dans cette troisième et dernière manche et 0-30 sur le service de Zabalenka. Si jamais la Belarus s'en sort, on aura droit à un super tie-break. Je dis pas l'angoisse.
Et Sarah m'a dit qu'elle avait changé de raquette.
Absolument, c'est une belle histoire, ouais.
Mais
parce qu'il l'explique, parce que Denis l'explique pas.
Se faire clasher par un ex-Salio, c'est dur quand même.
Non, pas du tout.
Non, elle a pris une raquette d'âme avec un cordage plus tendu. Et je t'ai dit, elle va frapper comme un âne sur les derniers jeux. Elle va tout tenter parce qu'elle a son cordage est plus tendu pour pas prendre de risques. Elle a choisi une raquette pour prendre tous les risques.
Match point.
Ah non, mais surtout,
c'est
dingue.
C'est une fille qui était avec une marque de raquette depuis le début de sa carrière. Et elle a eu un coup de cœur pour un modèle, donc d'une marque opposée. Et donc, elle a dit à son agent, débrouille-toi, je la veux. Voilà. Et cette raquette va peut-être lui faire gagner l'Open d'Australie. 15-40, balle de match.
L'histoire de la raquette. Au final.
C'est une histoire de fou. C'est comme si Federer passait de. Enfin, je vais pas les passer. Non, balle de match. 15-40. Zabalenka, première balle, elle est dedans. Le retour est faute. Non, il était bon. Mais bon, Zabalenka a coucou derrière. Donc 30-40. Première balle de match sauvée. Non, j'avais le bon œil, elle était bien faute. Mais bon, comme j'entends rien, vous parlez tellement que je peux pas
ouais,
tout faire.
C'est évidemment de notre faute.
C'est sourd.
30-40, deuxième balle de match pour Madison qui ce serait fantastique pour elle, 29 ans, hein, après son échec en finale chez elle à New York face à Sloane Stephens. Elle n'a jamais désespéré finalement, Sarah. Tu vois, il faut s'accrocher. Elle y croyait. Deuxième balle de match, le retour est dedans. Oh, le retour est magnifique. Elle a un coup droit à mettre. Attention, ça défend bien côté Zabalenka. C'est gagné! Oh, c'est incroyable! Sur un coup droit extraordinaire, Zabalenka perd son titre. Victoire fabuleuse de Madison Keys. 6-3, 2-6, 7-5. Zabalenka est folle de rage. 31 coups gagnants pour Madison Keys. Oh là là, je pense qu'elle va fondre en larmes en revenant vers sa chaise parce que c'est irréel ce qui lui arrive. Irréel. Elle serre la main de l'arbitre et là, elle va vers sa chaise et voilà, elle craque. Elle n'en revient pas. Elle a fait deux. Elle fracasse sa raquette, Zabalenka. Oh, c'est dingue. Il y a du drame dans l'air. Elle est en larmes, Madison Keys. Elle est en larmes. Elle va rejoindre son fiancé, Bjorn Fratangelo, qui sera bientôt son mari, qui était un bon joueur, qui avait même gagné Roland Garros chez les juniors. Mais là, c'est fantastique ce qui lui arrive. Ça lui tombe dessus. C'était pas prévu. Mais quel match. Elle sort en finale avec deux jeux absolument somptueux.
C'est rare de voir comme ça son adversaire casser sa raquette en pleine finale à la fin de cette rencontre magnifique. La reine Madison Keys qui vient donc de s'imposer dans cet Open d'Australie. C'est la première fois qu'elle remporte ce trophée.